At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
Section 7 de L'Art de lire par Émile Faguet. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johan.
Chapitre 7. Les mauvais auteurs. De même, il est bon de lire quelquefois les mauvais auteurs. Ceci est très dangereux, mais, si l'on y met de la discrétion, très salutaire encore. C'est très dangereux. Pourquoi aimez-vous, ce me semble, la conversation des imbéciles ? Ils m'amusent infiniment. Il ne faut pas se livrer beaucoup à cette volupté. Elle est malsaine. C'est un plaisir de malice qui est très sec et très desséchant, et qui rend l'esprit très aride. Flaubert adorait les imbéciles. Il rêvait de faire une encyclopédie de la sottise, et il en a donné 2 gros volumes. C'est déjà trop. À ce jeu, on s'habitue à un immense orgueil et à se considérer comme infiniment supérieur, ce qui d'abord est assez déplaisant et ce qui ensuite rend très peu capable de grandes choses. Car c'est en regardant en haut qu'on fait effort et qu'on tire de soi tout ce qui est possible qu'on en tire. Il n'y a rien de plus inutile que la grande partie de sa vie que Boileau a passée à lire de mauvais auteurs pour se moquer d'eux, et je vois là une grande petitesse d'esprit. Le métier qu'a fait Boileau ne se justifie que quand il s'agit d'un mauvais auteur qui jouit de la faveur générale, et par conséquent d'une funeste erreur publique à rectifier. Mais attaquer Pinchène et Bonnecorse, c'est s'accuser soi-même, car c'est avouer qu'on les a lus, et qui vous forçait à les lire, si ce n'est le désir d'y trouver matière à des épigrammes. Et ce désir n'est pas charitable, et le genre littéraire qui en dérive est le plus méprisable des genres littéraires. On remarque, parmi les enfants, beaucoup de petits moqueurs qui saisissent bien les ridicules des grandes personnes et de leurs camarades, et qui se font par là une petite royauté, comme d'autres par la force ou par l'instinct et les qualités du commandement. La Bruyère les a bien connus. Il n'y a nuls vices extérieurs et nul défaut du corps, de l'esprit aussi, quoique moins, qui ne soit aperçu par les enfants. Ils les saisissent d'une première vue et ils savent les exprimer par des mots convenables. On ne nomme point plus heureusement. Devenus hommes, ils sont chargés, à leur tour, de toutes les imperfections dont ils se sont moqués. Vous reconnaissez certainement quelques-uns des petits garçons qui furent vos camarades de classe. Rappelez-vous maintenant ce qu'ils sont devenus. Leurs parents, tout en croyant devoir les gronder et en faisant mine, en étaient très fiers. Ils sont devenus des imbéciles. Rien ne révèle la débilité d'esprit et ne l'entretient comme la moquerie. Il faut donc plutôt éviter que provoquer les occasions de se donner ou de confirmer en soi cette tendance. S'exercer à la moquerie, c'est avoir déjà et se conférer la volonté d'impuissance. Cependant, il ne faut pas s'interdire tout à fait les livres des sots. C'est d'abord une catharsis. La catharsis est, comme on sait, l'art de se débarrasser sans danger d'un sentiment qui pourrait nuire, de s'en purger de telle sorte qu'il ne reste pas en nous pour nous torturer ou qu'il ne s'exerce pas d'une manière mauvaise et funeste. Selon Aristote, on se purge de la peur et de la pitié en les éprouvant au théâtre pour les malheurs de héros imaginaires, grâce à quoi elles ne demeurent pas en nous pour nous assombrir. Les acteurs savent qu'il faut avoir le trac, l'émotion paralysante, avant la représentation ou pendant la représentation. Et ils disent, si on l'a avant, on ne l'a pas pendant, on est purgé. Et il est possible. Or, la moquerie exercée sur les mauvais livres est une catharsis. À l'exercer sur le mauvais livre, on lui donne satisfaction, et l'on n'a plus le besoin, peut-être, de l'exercer sur les personnes. C'est une soupape de sûreté, c'est la part du feu. La malignité a eu son aliment. Elle se calme, elle s'apaise, et elle ne nous anime plus. J'ai dit peut-être, car je n'en suis pas très sûr. Boileau est un exemple à l'appui de la théorie. Racine contre. Boileau, épuisant sa malignité sur les méchants ouvrages, était d'humeur aimable dans le cours ordinaire de la vie. Racine, criblant d'épigrammes les mauvais auteurs, demeurait d'humeur maligne dans son domestique, même à l'égard de son meilleur ami. Alceste me paraît bien avoir été aussi bourru contre les livres que contre les personnes, et contre les personnes que contre les livres. Et Molière ne se trompe guère en connaissance des caractères. Mais enfin, il est possible que le railleur de livres canalise sa malignité. Pour mon compte, je connais un poco courante. Pourquoi aime-t-il à lire les livres, puisque jamais, non pas une seule fois de sa vie, il n'en a trouvé un bon? Pourquoi? Évidemment, parce qu'il prend du plaisir à les trouver mauvais, cela est certain. Et ce sont des épigrammes continues, redoublées, triplées, renaissant indéfiniment les unes des autres. Il ne semble ne lire que pour renouveler la matière épuisée de ses épigrammes. Naturellement, il n'a jamais rien écrit. C'est, comme on a dit, un grand avantage que de n'avoir rien fait. Mais il ne faut pas en abuser. Il en abuse royalement. On demandait « Pourquoi n'a-t-il jamais fait un livre ?» On répondit « Parce qu'il l'aurait trouvé bon, et que trouver bon un ouvrage l'aurait tellement désorienté qu'il en aurait fait une maladie. » Or, j'ai dit que je le connais. Il est extrêmement agréable et bienveillant envers les personnes. C'est un homme du meilleur caractère. Concluons que dans sa malveillance à l'égard des livres, il a sa soupape. Il est possible que la lecture des mauvais livres soit une catharsis d'une très précieuse utilité morale. Ensuite, la lecture des mauvais livres forme le goût, à la condition qu'on en ait lu de bons, d'une façon qu'il ne faut pas mépriser ni peut-être négliger. Au sortir des études scolaires, les jeunes gens se partagent à peu près en trois classes. Ceux qui liront instinctivement de bons livres, ceux qui en liront de mauvais, ou vulgaires, ou très médiocres, ceux qui ne liront rien du tout. Les études scolaires donnent le goût du beau, ou l'horreur du beau, ou l'indifférence à l'égard de la littérature. Elles donnent le goût du beau à ceux qu'elles ont intéressés, et ils ne songent plus qu'à retrouver des sensations d'art analogues à celles qu'ils ont éprouvées en lisant Horace, Virgile, Corneille et Racine. Et c'est pour cela, disons-le en passant, qu'il faut toujours au lycée amener l'élève jusqu'aux auteurs presque contemporains, pour que, entre les grands classiques et les bons auteurs de leur siècle, il n'y ait pas une grande lacune qui les ferait désorienter en face des bons auteurs de leur siècle et qui les empêcherait de les goûter. Par où il serait de ces humanistes qui ne peuvent entendre que les auteurs très éloignés de nous, gens respectables et peut-être même enviables, mais qui sont privés de grandes et saines jouissances. Les études scolaires inspirent à jamais l'horreur du beau à ceux qu'elles ont ennuyés. À la vérité, il est évident qu'ils l'avaient déjà, mais ces études l'ont comme violemment développée. Figurez-vous un enfant qui, de naissance, n'aimerait pas la musique et que, par autorité paternelle, on aurait fait jouer du violon pendant 10 ans. Il ne pourrait plus passer devant un marchand d'instruments de musique. Seulement, ceux que les études scolaires ont ennuyés se subdivisent en 2 classes. Ceux qui n'ont horreur que de la belle littérature et ceux qui ont horreur de toute littérature. Les premiers forment le contingent des lecteurs de mauvais écrivains, des lecteurs de romans niais, des lecteurs de poètes excentriques, etc. Les seconds de toute leur vie ne liront que leur journal, en en choisissant un où l'on ne fera jamais de critique littéraire. De quoi il ne faut pas les blâmer, car on est bien plus sot en contrariant sa nature qu'en la suivant. Voilà les 3 catégories. Or, il me semble qu'il ne faut être d'aucune des 3. Il est souhaitable qu'on ne soit pas de la 3e. Il est désirable qu'on ne soit pas de la 2e. Il n'est pas tout à fait sans danger d'être uniquement et strictement de la 1ère. Supposez un homme de nos jours qui ne lirait que de l'Anatole France, du Loti, du Lemaître, du Bourget, du Régnier. Il me semble qu'il serait exactement dans la situation de cet humaniste dont je parlais plus haut. Il n'aurait que le sentiment de l'excellent avec une certaine étroitesse dédaigneuse d'esprit. Aurait-il même le sentiment de l'excellent? En vérité, je ne sais. C'est par comparaison que l'on a le sentiment de l'exquis. Ce n'est pas seulement par comparaison, sans doute, et la beauté nous frappe par elle-même, et c'est-à-dire par un accord soudain entre notre façon de sentir et la façon qu'un autre a de créer. mais il n'en est pas moins que mesurer les distances aide singulièrement à évaluer les hauteurs. Et, s'il n'est pas mauvais de connaître les prédécesseurs et les contemporains de Corneille pour bien entendre, pour entendre distinctement combien il est nouveau et combien il est grand, à toutes les époques, il en est de même. Il faut pousser des reconnaissances dans le pays des médiocres pour revenir au grand avec une faculté renouvelée d'admiration. Chateaubriand parle d'un auteur de son temps qui, chaque année, allait faire sa remonte d'idées en Allemagne. Un homme sage doit aller faire de temps en temps, chez les mauvais auteurs, la remonte de ses facultés d'admiration. Il n'est pas impossible que Boileau, dans la lecture des Pradon, n'ait cherché des raisons d'admirer davantage Racine. Cette pensée est consolante. On peut envisager les mauvais auteurs comme fonction de la gloire des grands. Un bon auteur peut dire des mauvais « Que serais-je sans eux ? Je semblerais petit. » Un mauvais auteur peut dire d'un bon qui le méprise « Ingrat, serait-il grand si je n'existais pas ?» Tant il y a qu'il n'est pas inutile de retremper son goût pour les hommes d'esprit dans le commerce des imbéciles. Certaines tables d'hôtes a formé mon goût peut-être plus que Sainte-Beuve. Où en serais-je si je n'avais pas lu X ? Je ne saurais pas le contraire de quoi il faut croire bon, car il avait une infaillibilité à rebours qui donnait une idée de l'absolu. Lisons un peu les mauvais auteurs, à la condition que ce ne soit pas par malignité, c'est excellent. Cultivons en nous la haine d'un sot livre. La haine d'un sot livre est un sentiment très inutile en soi, mais qui a son prix s'il ravive en nous l'amour et la soif de ceux qui sont bons.
Fin de la section 7. Section 8 de L'art de lire par Émile Faguet. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jehan.
Chapitre 8. Les ennemis de la lecture. J'appelle ennemis de la lecture non pas les multiples choses qui empêchent de lire et dont il faut reconnaître que la plupart sont excellentes, études scientifiques, vie d'action, sport, etc. Il est évident que notre temps n'est pas et ne peut pas être celui des liseurs. Ce que les anciens appelaient d'un mot charmant « umbra tillis vita » n'existe plus guère. Presque personne n'a plus le temps de s'enfermer à l'ombre pendant plusieurs jours pour lire un livre. Le livre n'est plus lu que morceau par morceau, 20 pages par 20 pages, et c'est-à-dire, même quand il est lu, n'est plus lu du tout, puisque la continuité dans la lecture est nécessaire, non seulement pour juger d'un ouvrage bien fait, mais pour l'entendre. Un tout petit nombre d'adorateurs zélés, à peine un petit nombre, d'hommes et de femmes aimant à lire, composent aujourd'hui un public restreint, pour lequel, un peu aussi par habitude, on continue d'écrire. Un auteur de nos jours est un moine qui écrit pour son couvent, isolé dans un petit monde isolé. La littérature est devenue conventuelle. Pour certains, du reste, amoureux de la réputation à petit bruit et délicate, elle n'en est que plus agréable et que plus chère. Mais ce n'est pas de ces ennemis-là que je veux parler. Tout compte fait, il me semble qu'ils ne peuvent être que très utiles. Ils éliminent les faux amis de la littérature, ceux qui ne liraient que s'il n'y avait pas d'autres distractions, ni d'autres passe-temps. Gens par conséquent de très peu de goût, n'ayant pas la vocation et qui alimenteraient autant la basse littérature que la bonne, et plutôt celle-là que celle-ci. Et ils laissent intacte la troupe de ceux qui sont véritablement nés pour lire. Je crois que la perte est nulle, si tant est même qu'il n'y ait pas gain. Les ennemis de la lecture dont je veux parler, ce sont les tendances, les penchants et les habitudes qui empêchent de bien lire, de lire comme il est utile, profitable et agréable de faire. À l'entendre ainsi, les principaux ennemis de la lecture sont l'amour-propre, la timidité, la passion et l'esprit de critique. La Bruyère, dont le chapitre intitulé « Des ouvrages de l'esprit » contient tout un art de ne pas bien lire, a touché l'un après l'autre tous ces points, et nous n'avons qu'à l'écouter. « L'on m'a engagé, dit Ariste, à lire mes ouvrages, à Zoïl. Je l'ai fait. Ils l'ont saisi d'abord et, avant qu'il ait eu le loisir de les trouver mauvais, il les a loués, modestement, en ma présence, et il ne les a pas loués, depuis, devant personne. Je l'excuse. Je n'en demande pas davantage à un auteur. Je le plains même d'avoir écouté de belles choses qu'il n'a point faites. Ceci est l'amour-propre, l'amour de soi, la jalousie. empêchant de lire ou de jouir en lisant. Ces sentiments sont tout naturels de la part d'un auteur, et il est en effet bien excusable. Cet écrivain, c'est je crois un Anglais, mais j'ai oublié son nom, disait « Quand je veux lire un bon livre, je le fais ». C'est excellent comme estime de soi. Ce n'est même pas peut-être de l'orgueil proprement dit. Il est très vrai que, quand on est auteur, et bon auteur, on doit nécessairement et sans vanité n'être satisfait
que de ce que l'on fait soi-même,
puisqu'on a une façon de penser toute particulière qui ne peut guère s'accommoder que d'elle-même. Comment voulez-vous que Corneille puisse trouver bon Racine qui goûte les sujets que Corneille a toujours évités et les manières de traiter les sujets que Corneille très visiblement n'aime point et qui se donne tout entier à la peinture de l'amour, sentiment que Corneille a toujours considéré comme trop chargé de faiblesse pour pouvoir soutenir une tragédie. Il y a une sorte d'incompatibilité d'humeur. Corneille, direz-vous, au moment même de la plus grande vogue de Racine, a fait Psyché. Voulez-vous mon sentiment secret ? Corneille n'a jamais été très fier, ni très satisfait d'avoir écrit Psyché. Comment veut-on que Voltaire, toutes raisons à part d'animosité et d'amour-propre, trouve bonne la nouvelle Héloïse, et bon l'Émile ? C'est proprement, de par la nature différente des esprits, la chose impossible. Les auteurs ont toutes sortes de motifs de ne pas admirer, ni même goûter les ouvrages de leurs confrères, motif dont l'amour-propre est seulement l'un, duquel, du reste, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est le plus faible. Mais nous qui ne sommes pas auteurs, nous n'avons aucun amour-propre qui nous empêche de lire et de lire de la bonne façon. Si bien, vous n'avez pas remarqué qu'un auteur est un ennemi, il l'est toujours. Il l'est toujours un peu. Si c'est un moraliste, il est un homme d'abord qui s'arroge le droit de se moquer de vous. Vous vous en apercevez toujours, sourdement. S'il est un idéaliste, il vous présente des héros de vertu, de courage et de grandeur d'âme qu'il prétend être, du moins qu'il a l'air de prétendre être, puisqu'il était capable de les concevoir. Quand on peint son héros, on peint son idéal, et l'idéal que l'on a, on se croit toujours un peu, on se croit du moins par moment, de force à le réaliser. Tout au moins, on a quelque air de cela. Poser un héros, c'est un peu se poser en héros. C'est une chose bien insupportable à beaucoup de lecteurs que cet air de supériorité. Si la petite lectrice naïve de roman se dit « Quel beau caractère doit être ce monsieur Octave Feuillet !» et est un peu amoureuse de monsieur Octave Feuillet, pour le même motif, et par contre, l'amour-propre de bien des lecteurs regimbe contre Octave Feuillet et dit en grondant « Cet auteur se donne bien du mal pour me faire entendre qu'il a plus de délicatesse que moi. Quel prétentieux !» Et votre amour-propre est blessé, et votre jalousie s'éveille comme contre quelqu'un qui a plus de succès que vous dans un salon. Inversement, le réaliste vous touche, comme on disait quelquefois au XVIIe siècle, pour ne pas dire tout à fait blessé, ou au moins vous inquiète, quand il peint quelqu'un de ridicule, qui pourrait bien être à peu près vous. Que de lecteurs, ayant compris que Flaubert se moque d'Homais, se sont dit « se railler d'un homme parce qu'il est anticlérical, ce n'est pas très fort ». Après tout, moi, je le suis, je ne suis pas si ridicule. Cet auteur écrit avec correction, mais il est un peu impertinent. L'amour-propre s'est éveillé et il est en garde. Et dans tous les cas, un auteur blesse ce sentiment profond d'égalité que nous avons tous. Il est un homme qui se détache de la troupe et qui prétend se faire admirer, au moins se faire écouter et nous divertir. Ce n'est pas une petite fatuité. C'est un homme qui, dans un salon, prend la parole. C'est un homme qui, dans un salon, va du côté de la cheminée. Il faut qu'un homme ait bien de l'esprit pour se faire pardonner de s'être dirigé du côté de la cheminée. La première impression est toujours hostile. Il a toujours à vaincre cette première impression. Autant en a à faire l'auteur, quel qu'il soit du reste. Au fond, bien des lecteurs ne pardonnent d'écrire qu'aux rédacteurs des faits divers dans les journaux. Ceux-ci n'ont point de prétention à l'invention, ils n'en ont point à la composition. Ils n'en ont point au style. Ils sont utiles, ils renseignent. Voilà de bons écrivains. Ils ne se font pas centre. Ils ne se donnent point des airs d'hommes supérieurs. Ils ne demandent pas, plus ou moins secrètement, l'admiration. Ils n'excitent aucune jalousie. Voilà de bons écrivains. Les sociétés décidément démocratiques n'en admettront sans doute pas d'autres. Au vrai, si l'on ne s'ennuyait pas, on ne ferait jamais cet acte d'abnégation et d'humilité d'ouvrir un livre. on se contenterait de ses pensées, en estimant qu'elles valent bien toutes celles qu'un autre peut avoir. La lecture est une victoire de l'ennui sur l'amour-propre. Du moment qu'elle est cela, l'auteur est toujours un peu un ennemi, et lui-même a à remporter sur l'amour-propre une victoire. Et donc, l'amour-propre est un ennemi de la lecture, terrible quand il est amour-propre d'auteur, notable encore quand il est amour-propre de n'importe qui. Continuons de lire La Bruyère. Il connaît la question. Il est homme qui a fait un livre et qui a désiré très vivement être lu, et qui était assez intelligent pour comprendre, mieux encore que toute autre chose, les raisons qu'on pouvait avoir de ne le lire point ou de le lire mal. Ceux qui, par leur condition, se trouvent exempts de la jalousie d'auteur ont ou des passions ou des besoins qui les distraient ou les rendent froids sur les conceptions d'autrui. Personne presque, par la disposition de son esprit, de son cœur et de sa fortune, n'est en état de se livrer au plaisir que donne la perfection d'un ouvrage. Et c'est-à-dire qu'un des ennemis de la lecture, c'est la vie même. La vie n'est pas liseuse, puisqu'elle n'est pas contemplative. L'ambition, l'amour, l'avarice, les haines, particulièrement les haines politiques, les jalousies, les rivalités, les luttes locales, tout ce qui fait la vie agitée et violente, éloigne prodigieusement de l'idée même de lire quelque chose. Millevoye, dans sa jeunesse, était commis de librairie. Son patron le surprit lisant. « Vous lisez, jeune homme, vous ne serez jamais libraire. » Il avait raison. L'homme qui lit n'a pas de passion. C'en est la marque. Et il n'aura pas même la passion de son métier fut-il de vendre des livres. La plupart des parents n'aiment pas beaucoup le goût de la lecture chez leurs enfants. Chez les petites filles, c'est une menace qu'un jour elles ne lisent des romans, et vous ne vous trompez pas beaucoup sur ce point, elles ne liront guère autre chose. Chez les petits garçons, c'est bon dans une certaine mesure, mais encore, c'est inquiétant. On n'a pas trop de temps pour se faire une position. Tu liras quand tu seras vieux, quand tu te seras tiré d'affaire. Il y a bien quelque bon sens là-dedans. Qu'un homme lise, c'est une marque qu'il n'est pas bien ambitieux, qu'il n'est pas tourmenté par le fléau des hommes et des dieux, qu'il n'a pas de passion politique, auquel cas il ne lirait que des journaux, qu'il n'aime pas dîner en ville, qu'il n'a pas la passion de bâtir, qu'il n'a pas la passion des voyages, qu'il n'a pas l'inquiétude de changer de place, même remarquez qu'il n'aime pas à causer. L'effroyable quantité de temps que les hommes, surtout en France, dépensent à ne rien dire, et c'est à savoir aux délices de la conversation, suffirait à lire un volume par jour, mais empêche qu'on en lise un par an. L'homme qui lit n'a même pas la passion nationale de la conversation. Que de passion n'a pas et ne doit pas avoir l'homme qui lit. Et quand on songe qu'une seule suffit pour interdire qu'on soit liseur, on comprend que La Bruyère ou tout autre auteur soit effrayé des obstacles qu'il a à vaincre et du petit nombre de personnes qui restent, non pas pour lire son livre, mais pour n'être pas dans l'impossibilité de l'ouvrir. Un autre obstacle, c'est la timidité, qui du reste est elle aussi une passion. La Bruyère n'a traité ce point qu'indirectement. Il n'a pas dit que la timidité fût un obstacle à lire un livre. Il a dit qu'elle en est un à l'approuver. Bien des gens vont jusqu'à sentir le mérite d'un manuscrit qu'on leur lit, qui ne peuvent se déclarer en sa faveur jusqu'à ce qu'ils aient vu le cours qu'il aura dans le monde, par l'impression, ou quel sera son sort parmi les habiles. Ils ne hasardent point leur suffrage. Ils veulent être portés par la foule et entraînés par la multitude. Ils disent alors qu'ils ont les premiers à prouver cet ouvrage et que le public est de leur avis. Un certain manque de courage à donner son avis est donc une cause que le bon ouvrage n'est pas tout de suite le succès qu'il mérite. Il est très vrai. Mais je dis que la timidité du lecteur est cause aussi qu'un ouvrage n'est pas autant lu qu'il en serait digne. Certains lecteurs, en effet, par une sorte de timidité, sont toujours des lecteurs en retard. Ils attendent non seulement pour approuver, mais pour lire, que le suffrage du public se soit prononcé. Non seulement pour un livre, mais pour un auteur. Et beaucoup ne lisent un ou plusieurs ouvrages d'un homme que quand il est passé grand écrivain dans l'estime de tout le public, ou quand il a été nommé de l'Académie française, ce qui, du reste, n'est pas tout à fait exactement la même chose. Ou quand ils apprennent sa mort, ces lecteurs nécrologiques sont assez nombreux. Il s'ensuit que ces lecteurs à la suite n'ont pas d'élan, d'ardeur, de ferveur, ni de vraie joie. Non seulement ils ne vont pas à la découverte, ce qui est un des plus grands plaisirs de la lecture, mais ils lisent dans un temps où, de quelque caractère durable que soit le livre, et dût-il être immortel, il n'a plus sa nouveauté, sa fraîcheur, son duvet, sa concordance avec les circonstances qui, sans l'avoir fait naître, ont contribué du moins à sa formation, et surtout lui ont donné en partie sa couleur. Le plaisir de lire un livre suranné est toujours un peu languissant. Il est plus que celui de lire un livre très ancien. Le livre très ancien est franchement d'un autre temps. Il a tout son caractère archaïque. Il peut plaire pleinement ainsi. Il peut n'en plaire que davantage. Il en est de cela comme des modes. Ce n'est pas la mode d'il y a 20 ans qui est ridicule. C'est celle d'il y a 2 ans. Celle d'il y a 20 ans est ancienne. Celle d'il y a 2 ans date. Elle est surannée. Celle d'il y a 20 ans est entrée dans l'histoire. Celle d'il y a 2 ans n'est pas entrée dans l'histoire et est sortie de l'usage, et son ridicule est de se donner, ou d'avoir l'air de se donner comme étant encore dans l'usage, alors qu'elle en est sortie. Il en est de même des livres qui ont 10 ans, et qui n'ont pas l'avantage d'en avoir 50. Vous avez remarqué qu'après la mort de tous les grands écrivains, il y a une dépréciation de quelques années. C'est qu'aux yeux de la génération qui existe à ce moment-là, l'écrivain qui vient de disparaître est suranné. Il était un peu vieux, on en avait assez de sa manière. Quelques années après, il a pris la place qu'il doit garder, ou à peu près, car il y a toujours des fluctuations, qu'il doit garder indéfiniment. Dans ma jeunesse, 20 ans après 1848, Chateaubriand était ridicule. Il est remonté sur le trône vers 1875, et il y reste. Être un lecteur retardataire est donc dangereux. C'est se préparer une série de déceptions. C'est se réserver de lire toujours les auteurs dans un certain refroidissement de la température. « Employez vite ce remède pendant qu'il guérit », disait un médecin, non pas sceptique, mais qui savait très au juste en quoi consiste la thérapeutique, qui est surtout une suggestion. « Lisez cet auteur pendant qu'il est bon », dirais-je. « Plus tard, il deviendra mauvais. Plus tard encore, il est possible qu'il redevienne bon. Mais alors, vous ne serez plus là pour le lire. » N'attendez pas pour faire commerce avec lui le moment intermédiaire où il sera mauvais. Cette sorte de timidité qui fait le lecteur retardataire est un des grands ennemis du plaisir de la lecture. Son plus grand ennemi encore, c'est l'esprit critique, entendu dans un certain sens du mot. Et je prie qu'on attende pour bien entendre ce que je veux dire par là. Je suis forcé ici d'être un peu long. La Bruyère a écrit une ligne qui est la plus fausse du monde, comprise comme nous la comprenons infailliblement de nos jours, très juste, dans le sens où très probablement il l'a entendu lui-même. Le plaisir de la critique nous ôte celui d'être vivement touché de très belles choses. C'est précisément le contraire, répondra immédiatement l'homme de notre époque. Comment La Bruyère peut-il écrire cela, Boileau vivant ? Si Boileau a été touché plus vivement que personne des belles choses de Racine, c'est précisément parce qu'il était critique et parce qu'il jouissait d'autant plus des belles choses qu'il était plus horripilé des mauvaises. Qui a plus vivement, qui a plus passionnément joui des belles choses que Sainte-Beuve? Et pourquoi? Parce qu'il avait affiné son goût critique par une immense lecture méditée, parce qu'il avait toujours lu en critique. La critique n'est pas autre chose qu'un exercice continu de l'esprit, par lequel nous le rendons apte à comprendre où est le faux, le faible, le médiocre, le mauvais, et à être très sensible au faux, au faible, au médiocre et au mauvais, grâce à quoi nous le sommes pareillement au vrai et au beau, et infiniment plus que nous ne l'eussions été sans cet exercice. Le lecteur qui ne lit pas en critique, bon esprit du reste et juste, mais qui ne réagit point, ne fait pas une extrême différence entre Racine et Campistron, entre Rousseau et Diderot, et entre Diderot et Helvétius. Il ne fait pas, dans le même auteur, de grande différence entre un ouvrage et un autre, entre Le Misanthrope et Le Mariage forcé. La lecture est pour lui un plaisir passif, pour mieux parler, un plaisir uni, sans accidents, sans montées et sans descentes, sans grandes émotions, sans transport d'admiration et sans irritation vive, sans émotion, pour tout dire d'un mot. Le lecteur qui lit en critique se prive à la vérité de plaisirs médiocres ou moyens, mais c'est la rançon, et par compensation de cette perte, il se prépare des plaisirs exquis quand il découvrira l'œuvre exquise.
Ce ne sont donc pas les très belles choses dont il se prive, ce sont les très belles choses que d'avance il met à part en se mettant en état, quand il les trouvera, de les démêler du premier coup avec un cri d'amour et de gratitude. Au fond, il ne faut pas dire qu'il n'y a que les critiques qui ne jouissent pas. Il faut dire qu'il n'y a que les critiques qui jouissent vivement. Le lecteur critique est le lecteur armé, armé d'armes défensives. On ne l'emprisonne pas, on ne le garrotte pas du premier coup, ni facilement. Mais précisément à cause de cela, quand on le charme, c'est avec l'ivresse du plaisir qu'il laisse tomber toutes ses armes. Ce n'est pas à dire, et Nietzsche a d'excellentes remarques sur ce point, que le lecteur doive être armé tout d'abord en ouvrant le livre, ni le spectateur tout d'abord en voyant la toile se lever. Il faut d'abord se livrer, vouloir se livrer par méthode. Nietzsche dit très bien l'amour en tant qu'artifice. Qui veut apprendre à connaître réellement quelque chose de nouveau, que ce soit un homme, un événement, un livre, fait bien d'adopter cette nouveauté avec tout l'amour possible, de détourner résolument sa vue de ce qu'il y trouve d'hostile, de choquant, de faux, même de l'oublier. Si bien qu'à l'auteur d'un livre, par exemple, on donne la plus grande avance et que, d'abord, comme dans une course, on souhaite, le cœur palpitant, qu'il atteigne son but. Par ce procédé, on pénètre en effet la chose jusqu'au cœur, jusqu'à son point émouvant, et c'est justement ce qui s'appelle apprendre à connaître. Rien de plus juste, rien de plus certain. Il faut toujours d'abord être sympathique. La sympathie est la clé par laquelle on entre. Mais Nietzsche ajoute tout de suite, une fois là, le raisonnement fait après coup ses restrictions. Cette estime trop haute, cette suspension momentanée du pendule critique, n'était qu'un artifice pour prendre à la pipée l'âme d'une chose. Il faut donc être un lecteur armé, qui désarme par méthode et pour comprendre, qui reprend ses armes pour discuter, qui désarme enfin de nouveau quand l'examen critique lui a prouvé qu'il est en face d'une chose dont la vérité ou la beauté est indiscutable. Mais, tout compte fait, il faut être un lecteur critique ayant seulement les méthodes de la critique juste dans tous les sens de ce mot. La contre-épreuve de ceci, c'est l'esprit critique chez l'auteur lui-même. L'auteur doit avoir l'esprit critique. Il doit l'exercer tout juste avec les méthodes et les démarches mêmes que nous venons de voir que doit observer le lecteur. C'est ici, ce me semble bien, que Nietzsche a erré. Il paraît croire que l'artiste ne doit pas du tout être critique de lui-même. C'est ce qui distingue l'artiste du profane qui est réceptif. Celui-ci atteint les points culminants de sa faculté d'émotion en recevant, celui-là en donnant, en sorte qu'un antagonisme entre ces deux prédispositions est non seulement naturel, mais encore désirable. Chacun de ces états possède une optique contraire à l'autre. Exiger de l'artiste qu'il s'exerce à l'optique du spectateur, du critique, c'est exiger qu'il appauvrisse sa puissance créatrice. Il en est de cela comme de la différence des sexes. Il ne faut pas demander à l'artiste qui donne de devenir femme, de recevoir. Notre esthétique fut, jusqu'à présent, une esthétique de femme, en ce sens que ce sont seulement les hommes réceptifs à l'art qui ont formulé leurs expériences au sujet de ce qui est beau. Il y a là, comme l'indique ce qui précède, une erreur nécessaire. Celle de l'artiste, car l'artiste qui comprendrait se méprendrait. Il n'a pas à regarder en arrière. Il n'a pas à regarder du tout. Il doit donner. C'est à l'honneur de l'artiste qu'il soit incapable de critiquer. Autrement, il n'est ni chair ni poisson, il est moderne. Par moderne, Nietzsche entend ces artistes qui précisément sont très intelligents, sont très critiques, raisonnent de leur art, surveillent leur art et font exactement ce qu'ils veulent faire. Le type pour moi en est Virgile ou Racine. Le type, pour Nietzsche, en est Euripide, non sans raison, ou Lessing. Il dit sur eux, avec une singulière pénétration, « Euripide se sentait, certes, en tant que poète supérieur à la foule, mais non pas à deux de ses spectateurs. De seul, il écoutait la valable sentence portée sur son ouvrage, ou la réconfortante promesse de victoire future lorsqu'il se voyait encore une fois condamné par le tribunal du public. De ces deux spectateurs, l'un est Euripide lui-même, Euripide en tant que penseur et non pas en tant que poète.
On pourrait dire de lui que, à peu près comme chez Lessing, l'extraordinaire puissance de son sens critique a sinon produit, au moins fécondé sans cesse, une activité créatrice, artistique, parallèle. Doué de cette faculté, il s'était assis dans le théâtre et avait étudié ses grands devanciers. Il y trouve de l'énigmatique et du mystère. Même dans le langage de l'ancienne tragédie, il y avait pour lui beaucoup de choses choquantes, tout au moins inexplicables. C'est ainsi qu'assis dans le théâtre, il réfléchissait longuement, inquiet et troublé. Il dut s'avouer, lui, le spectateur, qu'il ne comprenait pas ses grands devanciers. Dans cette angoisse, il rencontra l'autre spectateur, Socrate, qui ne comprenait pas la tragédie, et pour ce motif la méprisait. Délivré de son isolement, en s'alliant à celui-ci, il put oser entreprendre une guerre monstrueuse contre les œuvres d'art d'Eschyle, de Sophocle, et cela non par des ouvrages de polémique, mais par ses œuvres de poète dramatique opposant sa conception de la tragédie à celle de la tradition. Voilà donc le poète conscient, le poète qui comprend, le poète qui analyse, le poète qui est mêlé d'un critique et qui fera exactement ce qu'il aura voulu faire. Nietzsche ne l'aime pas, sans doute. Nietzsche ne le voit pas comme type du grand poète, lequel est tout instinct et ne doit pas regarder en arrière et ne doit rien regarder du tout. Mais cependant il l'admet. Il va jusqu'à dire que son extraordinaire puissance de sens critique a, sinon produit, du moins fécondé sa faculté créatrice. Le poète est donc quelquefois mêlé d'un critique dont l'office est d'abord de démêler ce que veut le poète et de l'avertir de ce qu'il veut. Ce que tu veux obscurément, le voici clairement. Tu veux ceci. Dont l'office est ensuite de surveiller le travail de l'artiste et de l'avertir qu'il ne fait pas ce qu'il veut et ce qu'il a voulu. Le poète est quelquefois mêlé de ce critique-là. Mon opinion est même qu'il l'est toujours. Victor Hugo, qu'on pourrait si bien soupçonner de manquer de sens critique, en a puisqu'il se corrige, et puisqu'il se corrige toujours bien, comme l'étude de ses manuscrits le prouve. Un poète est un poète uni à un critique d'art et travaillant avec lui. Mais travaillent-ils ensemble en même temps? Point du tout, et c'est cela qui est impossible. Si dans l'artiste, le critique intervenait pendant que l'artiste travaille, c'est alors que seraient absolument vraies les paroles de Nietzsche. L'artiste appauvrirait sa puissance créatrice, il la dessécherait même, et deviendrait incapable de rien produire. Non, quand l'artiste travaille, il doit s'abandonner à sa faculté créatrice. Il ne doit pas regarder en arrière, ni nulle part, il doit donner. Le mot de l'ancienne langue française, donner, dans le sens de marcher impétueusement en avant, est admirable. Mais plus tard, le critique intervient et il juge, il compare et il raisonne. Il contraint l'artiste à distinguer ce qu'il a fait de ce qu'il a voulu faire. Il l'amène à se corriger. Il juge des corrections. Et enfin, il donne son approbation et même son admiration devant la vérité ou la beauté définitivement atteinte. Or, s'il en est ainsi, remarquez-vous les coïncidences entre les démarches du lecteur et du poète. Elles sont identiques. Le lecteur doit s'abandonner d'abord à une sympathie instinctive ou voulue pour l'auteur. Le poète doit s'abandonner d'abord à son inspiration, à sa verve, à sa foi en lui, à sa sympathie pour lui-même en tant qu'artiste. Le lecteur doit ensuite se faire critique, raisonner, comparer, juger, discuter. L'auteur doit ensuite se faire critique, réveiller le critique qui est en lui, examiner, comparer, raisonner, discuter, juger. Le lecteur doit enfin admirer, s'il y a lieu, ce qui a comme passé successivement par sa sympathie et par sa critique. L'auteur doit enfin approuver et même admirer, s'il y a lieu, ce qu'il a conçu dans la foi et dans l'amour, ce qu'il a contrôlé et redressé ensuite à l'aide de son sens critique. Foi, critique, admiration. Il y a trois phases qui sont les mêmes que, et le lecteur et le poète, doivent traverser successivement pour arriver l'un à la pleine admiration, l'autre à la pleine réalisation du vrai ou du beau. Si tout cela est vrai, ne l'est-il pas que la critique est toujours là quand il s'agit d'œuvres d'art, tant pour prendre possession du beau que pour le créer,
qu'il faut que le lecteur soit critique, puisqu'il faut que l'auteur le soit, et qu'il faut que le poète le soit, puisque le lecteur doit l'être. Et si l'auteur doit l'être lui-même, ce que Nietzsche lui-même avoue, n'est-il pas vrai à plus forte raison qu'il faut que le lecteur le soit pour son plus grand plaisir, qui est l'admiration intelligente, l'admiration consciente, l'admiration qui sait pourquoi elle admire. Donc, que devient le mot de la Bruyère ? Il est absolument faux. Ainsi parlera un homme qui prendra le mot critique dans le sens où tout le monde le prend aujourd'hui. Seulement, il est infiniment probable que la Bruyère lui-même ne l'a pas pris du tout dans ce sens. De son temps, esprit critique signifiait le plus souvent esprit de dénigrement, ou tout au moins esprit de mécontentement. Quand Boileau dit « gardez-vous, dira l'un, de cet esprit critique », il veut dire, on le sent assez, « gardez-vous de cet épigrammatiste ». La Fontaine, dans sa fable « Contre ceux qui ont le goût difficile », emploie le mot « critique » dans le même sens. Molière, de même, un cagot de critique, car il contrôle tout ce critique zélé. Dès lors, si la Bruyère l'emploie dans ce sens, ce que l'on voit qui est probable, la Bruyère a raison. Ce qui empêche de jouir des belles choses, c'est l'envie de les trouver mauvaises. Il n'y a rien de plus incontestable. Cette envie est très naturelle. En dehors même de cette impatience des supériorités dont j'ai parlé plus haut, l'instinct de taquinerie est une des formes de l'instinct querelleur, qui est extrêmement fort dans l'humanité. Je ne suis pas tout à fait de l'avis de Voltaire sur ce point. En quittant Pococurante, Candide dit à Martin « Voilà le plus heureux de tous les hommes, car il est au-dessus de tout ce qu'il possède. » « Ne voyez-vous pas, dit Martin, qu'il est dégoûté de tout ce qu'il possède ?» Platon a dit, il y a longtemps, que les meilleurs estomacs ne sont pas ceux qui rebutent tous les aliments. Mais, dit Candide, n'y a-t-il pas du plaisir à tout critiquer, à sentir des défauts là où les autres hommes croient voir des beautés ? C'est-à-dire, reprit Martin, qu'il y a du plaisir à n'avoir pas de plaisir ? Au fond, je suis très bien de l'avis de Martin. Cependant, il avait tort de croire absolument qu'il n'y a pas de plaisir à n'avoir pas de plaisir. Il y en a. Il y a précisément la jouissance qu'on éprouve à n'être de l'avis de personne. D'abord, c'est une attestation de supériorité que l'on se donne. Que d'autres admirent tel ouvrage, c'est affaire à eux. C'est bien pour eux qu'il est écrit. Ils sont à sa hauteur, parce qu'il est à leur niveau. Mais moi... Je me rappelle encore de quel air un de mes amis, voyant la dame aux camélias affichée, me désignait l'affiche du bout de sa canne et me disait « C'est beau, cette pièce-là ». Cela voulait dire « Je suis parfaitement sûr que tu es assez philistin pour trouver cela beau ». Or, croyez-vous que cet homme ne jouissait pas ? Il jouissait de toute son âme. Ensuite, c'est le plaisir d'offenser, de provoquer, c'est l'instinct de lutte. On connaît assez l'homme qui, en politique, est toujours de l'opposition. C'est un homme qui n'aime pas à approuver, et qui n'aime pas à approuver parce qu'il aime la dispute, la contradiction, la provocation, le défi, le regard hostile, cherchant le regard hostile. Le mécontentement, c'est le désir de mécontenter. Le Pococurante, en littérature, est un mécontent qui veut surtout qu'on soit, autour de lui, mécontent de son mécontentement. Maint homme est heureux de voir autour de lui des visages renfrognés, et qui le sont parce qu'il a voulu qu'ils le soient. C'est une volonté de puissance. Et enfin, peut-être surtout, le pococurantisme est un désir de se rendre témoignage à soi-même que l'on n'est pas dupe. De même que l'honnête homme est satisfait d'avoir vu clair dans le manège d'un charlatan et de n'être pas tombé dans ses pièges, de même, le pococurante considère les artistes, les auteurs, les poètes et les jolies femmes comme des thaumaturges et faiseurs de prestige qui empaument adroitement l'humanité. L'humanité, soit, mais non pas lui. On n'a pas raison de lui si facilement. Il sait se défendre. Il n'a même pas besoin de se défendre. Il est inaccessible. Il voit clair dans le jeu et on ne lui en donne pas à garder. La satisfaction de n'être pas dupe se mesure à l'horreur que l'on a de l'être. Et cette horreur est infinie chez quelques hommes. La Bruyère a très bien indiqué pourquoi l'on a honte de pleurer au théâtre, tandis que l'on n'a point honte d'y rire. Est-ce une peine que l'on sente à laisser voir que l'on est tendre et à marquer quelque faiblesse, surtout en un sujet faux et dont il semble que l'on soit la dupe ? Assurément, c'est cela. Tandis que pour ce qui est de rire, on s'y laisse aller plus facilement parce qu'on est moins dupe et l'on fait moins figure de dupe en riant qu'en pleurant.
le rire vous laissant toute liberté d'esprit, et les pleurs marquant qu'on l'a perdu, et qu'on est pénétré jusqu'au fond, et possédé par le sujet et par l'auteur. Encore l'on sait fort bien que les esprits forts et les esprits délicats ne rient pas plus qu'ils ne pleurent, et, quand il y a matière à hilarité, se contentent de sourire. Rire à gorge déployée n'étant pas beaucoup moins que pleurer, signe que l'on est conquis et en possession de l'auteur. Tout de même, ou à peu près tout de même, admirer, c'est avouer que l'on est ébloui, fasciné, étourdi par le talent, l'habileté, l'adresse, la rouerie d'un auteur. On n'aime pas beaucoup avouer cela. Voilà au moins quelques éléments de cet esprit critique dont parle La Bruyère, et entendu comme il l'entend. Or, Martin a-t-il bien raison quand il dit « le plaisir de s'empêcher d'avoir du plaisir » ? Non, pas tout à fait, car le poco corrente ne s'empêche point d'avoir du plaisir. Il va bel et bien en chercher où il peut en trouver. Il se refuse le plaisir de l'admiration, sans doute, mais pour s'en donner un plus aigu et plus pénétrant, qui est de se contempler n'admirant point et de se féliciter de n'admirer pas. N'en doutez point, Martin, c'est toujours son plaisir qu'on cherche, et c'est-à-dire une activité psychique conforme au caractère que l'on a. Mais si l'on a comme le choix, si, avec des penchants, comme tous les hommes, à l'orgueil, à la taquinerie, à la dispute, au désir de se distinguer, à l'horreur d'être dupe, on en a aussi à l'admiration, ou simplement au plaisir de goûter les belles choses. Il vaut certainement mieux incliner de ce dernier côté, et, si vous êtes ainsi partagé, je vous dirais, considérez le plaisir de la critique comme le plus grand ennemi et le plus dangereux de la lecture, et faites-lui bonne guerre. Le plaisir de la critique, dans le sens où l'entend La Bruyère, est juste aussi funeste à la lecture que l'esprit critique, dans le sens moderne du mot, lui est utile. Amour-propre, passions diverses, timidité, esprit de mécontentement, tels sont les principaux ennemis de la lecture, à ne compter que ceux que nous portons en nous. On voit qu'ils sont nombreux, et l'on a vu qu'ils sont assez terribles. Il faut se tenir en garde contre eux, si l'on ne veut pas se préparer une vieillesse triste, puisque les livres sont nos derniers amis, et qui ne nous trompent pas, et qui ne nous reprochent pas de vieillir.
Fin de la section 8. Section 9 de L'art de lire par Émile Faguet. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jehan.
Chapitre 9. La lecture des critiques. Il y a une grande question. Faut-il lire concurremment avec les bons auteurs ceux qui ont parlé d'eux ou qui en parlent ? Faut-il lire les critiques ? J'en suis très modérément d'avis, mais j'en suis d'avis. Qu'est-ce qu'un critique ? C'est un ami qui cause avec vous de vos lectures, faisant les mêmes ou ayant fait les mêmes. Oh, ce personnage est-il inutile ? Est-il odieux ? Non, sans doute. Dans la vie domestique, vous le recherchez. Vous sentez qu'il vous fait réfléchir, qu'il renouvelle en vous vos sensations et impressions de lecteur, qu'il éveille en vous des curiosités de lecteur, qu'en épousant ou en contrariant vos jugements, il fait que vous les révisez, à quoi sans doute votre goût s'exerce et s'affine. Qu'en vous dirigeant du côté de nouvelles lectures, il vous ouvre des pays nouveaux auxquels vous songiez vaguement ou ne songiez point, et qui peuvent être d'une grande beauté ou d'une étrangeté captivante. Enfin, vous êtes content de l'ami qui cause avec vous de vos lectures et des siennes. Il est quelquefois cassant, il est quelquefois un peu trop admiratif et ami de tout le monde. Il est quelquefois, à votre goût, trop tourné du côté du passé, ou au contraire, trop attiré vers les nouveautés, et homme qui découvre tous les matins un nouveau chef-d'œuvre, ce qui lui fait oublier celui qu'il a découvert hier. Il est quelquefois l'homme qui n'a que de la mémoire, et qui cite presque sans choix, et vous le trouvez monotone. Il est quelquefois l'homme qui, en parlant des autres, songe surtout à lui et qui, dans l'esprit des auteurs, ne trouve presque qu'une occasion de faire admirer celui qu'il a. Mais quels que soient ses défauts, vous l'aimez toujours un peu. Le lecteur aime celui qui lit et qui lui parle de lecture, et en vient même, par besoin de confidences intellectuelles, à faire et à recevoir, et à ne pouvoir plus se passer de lui. Eh bien, le critique est précisément cet ami que vous avez, et, si vous n'en avez pas, il le remplace. Vous n'avez pas tort d'aimer le critique. Mais, et c'est ici que la question se pose dans ses vrais termes, Quand faut-il lire les critiques? À quel moment? Le critique qui parle de Corneille, avant d'avoir lu Corneille lui-même, ou après que vous aurez lu Corneille? Voilà le point. J'ai souvent dit, un critique est un homme qui sert à vous faire lire un auteur à un certain point de vue et dans certaines dispositions d'esprit qu'il vous donne. Si cela est vrai, prenons garde. Est-ce qu'il ne faudrait pas ne point lire le critique du tout? Il semble bien, car, enfin, ce qui m'importe à moi, lecteur, et en vérité c'est mon devoir, c'est d'avoir une impression personnelle, c'est d'avoir une impression bien à moi, c'est d'être ému par Corneille très personnellement, et non pas d'être ému par Corneille selon l'impression d'un autre. Ce point de vue où le critique m'aura mis, c'est le sien. Cette disposition d'esprit où il m'aura mis, c'est la sienne. De sorte que lire le critique avant l'auteur, c'est m'empêcher de comprendre l'auteur moi-même. C'est me forcer à ne l'entendre que d'une oreille préparée et presque formée par un autre. C'est bien travailler à me mettre dans l'impossibilité d'être touché directement, et c'est-à-dire, c'est bien travailler à me rendre incapable de jouissance. Voilà vraiment un beau profit. Ajoutez qu'une certaine paresse aidant, ou, si vous voulez, la loi du moindre effort, je me contenterai bientôt de savoir ce que pensent des auteurs les critiques les plus autorisés, sans jamais lire les auteurs eux-mêmes. D'abord parce que, si l'on sait choisir ses critiques, c'est plus court. Ensuite, parce que même les critiques prolixes ont débrouillé la matière et me donnent, par les citations qu'ils font de leur auteur, le meilleur, évidemment, de cet auteur-là, ce qui peut me suffire. Ensuite et surtout parce que, devant, quand je lirai l'auteur après le critique, subir l'influence de celui-ci et lire dans la disposition d'esprit où il m'aura mis. Si je dois, l'auteur lu après le critique, avoir la même impression que le critique seul étant lu, j'épargne du temps en lisant le critique seul. Et c'est ainsi que Renan a très bien dit qu'un temps viendrait où la lecture des auteurs serait remplacée par celle des historiens littéraires. Il avait même l'air de n'être pas fâché en disant cela. Il y a beaucoup de vrai dans ces observations et, je le dirai en passant, c'est bien pour cela que moi, très partisan de la lecture des auteurs eux-mêmes, j'ai souvent applaudi de tout mon cœur aux critiques prolixes. Comment celui-ci écrit 2 volumes sur la princesse de Clèves, celui-ci 5 volumes sur Jean-Jacques Rousseau? Tant mieux! Comment tant mieux? Sans doute, le lecteur trouvera plus court de lire Rousseau lui-même. Cependant, il faut s'entendre. Distinguons d'abord entre l'historien littéraire et le critique proprement dit. L'historien littéraire doit être aussi impersonnel qu'il peut l'être. Il devrait l'être, absolument. Il ne doit que renseigner. Il n'a pas à dire quelle impression a faite sur lui tel auteur. Il n'a à dire que celle qu'il a faite sur ses contemporains. Il doit indiquer l'esprit général d'un temps d'après tout ce qu'il sait d'histoire proprement dite. L'esprit littéraire et artistique d'un temps, ce qui est déjà un peu différent, d'après tout ce qu'il sait d'histoire littéraire et de l'histoire même de l'art. Mesurer ce qui, du reste, est impossible, mais c'est pour cela que c'est intéressant, les influences qui ont pu agir sur un auteur. S'inquiéter de la formation de son esprit d'après les lectures qu'on peut savoir qu'il a faites, d'après sa correspondance, d'après les rapports que ses contemporains ont fait de lui. S'enquérir des circonstances générales, nationales, locales, domestiques, personnelles, dans lesquels il a écrit tel de ses ouvrages, et puis tel autre. Chercher ce qui est encore une manière de le définir, l'influence que lui-même a exercée, et c'est-à-dire à qui il a plu, les répulsions qu'il a excitées, et c'est-à-dire à qui il a déplu. Ce n'est là qu'une très petite partie du travail de l'historien littéraire, mais cela en donne une idée suffisante. Ce qu'il ne doit pas faire, c'est juger, ni dogmatiquement, à savoir d'après des principes, ni non plus impressionnellement, à savoir d'après les émotions qu'il a eues. Il est trop clair qu'en ce faisant, il sortirait complètement de son rôle d'historien. Il ferait de l'histoire littéraire comme on faisait de l'histoire proprement dite au XVIe ou encore au XVIIe siècle. Quand l'historien jugeait les rois et les grands personnages de l'histoire, les louait ou les blâmait, se révoltait contre eux comme eût fait une province ou les couvrait de fleurs comme à une entrée de ville. Enfin, dirigeait l'histoire tout entière et l'inclinait à être une prédication morale. L'historien littéraire ne doit pas plus en user ainsi que l'historien politique.
il ne doit connaître et faire connaître que des faits et des rapports entre les faits. Le lecteur ne doit savoir ni comment il juge, ni s'il juge, ni comment il sent, ni s'il sent. Le critique, au contraire, commence où l'historien littéraire finit, ou plutôt il est sur un tout autre plan géométrique que l'historien littéraire. À lui, ce qu'on demande, au contraire, c'est sa pensée sur un auteur ou sur un ouvrage. Sa pensée, soit qu'elle soit faite de principes ou qu'elle le soit d'émotions. Ce qu'on lui demande, ce n'est pas une carte du pays, ce sont des impressions de voyage. Ce qu'on lui dit, c'est « Vous vous êtes rencontré avec M. Corneille ? Quel effet a-t-il fait sur vous ? Est-il entré dans vos idées générales sur la littérature et sur l'art d'écrire ? Ou les a-t-il contrariés ? Et par conséquent, l'avez-vous hautement approuvé ou condamné sévèrement ? Si vous êtes plutôt, et surtout, ou même uniquement, un homme de sentiment, de sensibilité, d'émotion, quelles émotions M. Corneille a-t-il excité en vous ? De quelle manière votre âme a-t-elle réagi ? Délicieusement ou douloureusement, ou faiblement, à rencontrer la sienne ? Qu'est devenue votre sensibilité dans le commerce ou au contact de M. Corneille ? Mais vous m'interrogez autant, au moins, sur moi que sur Corneille. Certainement. Voilà ce qu'est le critique. Peu s'en faut qu'il ne soit le contraire même de l'historien littéraire. Tout au moins, ils sont si différents que ce qu'on demande à l'un est légitimement. C'est ce qu'on ne demande pas et ce qu'on ne doit pas demander à l'autre. Et la converse est vraie. Il a fallu insister sur ce point parce qu'il n'y a pas si longtemps qu'on a compris la grande différence qu'il y a entre l'historien littéraire et le critique. Parce que, jusqu'aux dernières années du dernier siècle, les historiens littéraires croyaient avoir mission de critique, et réciproquement, parce que telle histoire de la littérature française, celle de Nisard, est tout entière œuvre de critique, et comme histoire littéraire n'existe pas, de telle sorte que l'auteur n'a rien fait de ce qu'il devait faire, et a fait tout le temps, et du reste d'une manière admirable, ce qu'il devait ne pas faire du tout. Si bien encore que son livre, absolument manqué comme histoire littéraire, reste tout entier debout comme recueil de morceaux de critique. Or, cette distinction étant faite, et si vous l'admettez, revenons à notre question. Quand faut-il lire le critique ? Cela dépend précisément de la question de savoir s'il est historien littéraire, d'après la définition que nous avons donnée de l'historien littéraire, ou s'il est critique, selon la définition que nous avons donnée du critique. S'il est historien littéraire, il faut le lire avant de lire l'auteur, et s'il est critique, il ne faut jamais le lire avant. S'il est historien littéraire, il vous donnera tous les renseignements qui vous sont utiles, et dont quelques-uns vous sont indispensables sur le monde où vivait l'auteur, sur les hommes pour qui il a parlé, sur tout ce qui, son génie mis à part, l'a fait ce qu'il a été. Il vous introduira ainsi chez lui, il vous fournira toutes les informations sans lesquelles vous ne comprendriez de lui à très peu près rien. Il est donc prouvé qu'il faut lire l'historien littéraire avant l'auteur à qui vous voulez vous attacher. L'introduction à l'intelligence de Corneille, c'est l'histoire du temps de Corneille, toute l'histoire du temps de Corneille, et particulièrement l'histoire de la littérature française de 1600 à 1660. Pour le critique, c'est très différent. Il est très vrai que, si vous le lisez avant l'auteur avec qui vous désirez lier commerce, il vous nuira beaucoup plus qu'il ne vous rendra des services. Vous ne pourrez pas, en lisant l'auteur, ou vous pourrez difficilement, vous débarrasser du point de vue du critique pour recevoir l'impression directe. Le critique sera comme un écran entre l'auteur et vous. Vous désiriez savoir quel effet ferait sur vous Montaigne, et vous ne savez pas si ce qui vous vient à l'esprit en lisant Montaigne vous vient en effet de Montaigne ou de Nisard. Vous vouliez connaître votre sensibilité modifiée par Montaigne. Vous connaissez une modification faite peut-être par Montaigne, mais préparée par Nisard. Vous connaissez quelque chose en vous qui est de Montaigne, de Nisard et de vous-même. Il y a un terme de trop. Ce n'est pas lire Montaigne que de le lire à travers Nisard, que de le lire en y cherchant instinctivement et en y trouvant forcément moins les pensées de Montaigne que les pensées que Montaigne a inspirées à Nisard. Et pour lire Montaigne vraiment, ce qui s'appelle lire, il faudrait d'abord que vous missiez Nisard en total oubli. S'il est ainsi, il va de soi qu'il ne fallait pas commencer par lire le critique. Alors, lisons l'historien littéraire avant, et le critique jamais.
Pourquoi ?
Lisons l'historien littéraire avant, et le critique après. Après, c'est trop tard ? Non point. Le critique doit inviter à relire ou à repenser sa lecture. Voilà le vrai rôle du critique. Le critique prépare non pas,
comme je l'ai dit d'abord,
à lire dans une certaine disposition et un certain point de vue, en quoi il serait nuisible. Il prépare à relire à un certain point de vue et dans une certaine disposition d'esprit, en quoi il est utile. Reprenons l'exemple donné plus haut de l'ami avec qui vous causez littérature. Vous avez lu le dernier roman. Il vous a laissé telle impression. Vous rencontrez l'ami, il l'a lu, lui aussi. Le livre lui a laissé une impression très différente. Vous discutez, vous donnez vos raisons, il donne les siennes, vous rapportez tel détail qu'il n'a pas vu, il vous indique telle particularité qui vous est échappée, vous rentrez chez vous. Vous ne songez guère qu'à relire le volume, tout au moins à le repasser en revue dans votre mémoire. D'une façon ou d'une autre, vous le relisez, vous le revoyez sous un nouvel angle. C'est votre ami qui en est cause. Voilà le rôle du critique. Et voilà le cas où le critique ne peut pas être nuisible, fût-il mauvais, puisqu'il ne fait que provoquer une révision, et peut-être très utile parce qu'il la provoque. J'ai vécu pendant quelques années dans une société d'hommes très intelligents, très lettrés, de beaucoup de goût, très décisionnaires aussi, qui parlaient sans cesse des ouvrages nouveaux. Je les avais presque toujours lus avant qu'ils n'en parlassent, et j'écoutais ces messieurs avec un très vif intérêt. Leurs décisions, un peu tranchantes, et leurs aperçus, extrêmement inattendus de moi, m'étonnaient et me donnaient beaucoup à penser. Je rentrais chez moi toujours avec le véritable besoin de relire le livre dont ils avaient parlé et de comparer mes impressions aux leurs. C'était un très grand profit. Je n'étais pas toujours, après révision, de leur avis. Je n'en étais même jamais, mais j'avais relu avec un esprit nouveau. Et c'est cela qui est important. Je leur dois beaucoup. Au bout d'un certain temps, à la vérité, ils cessèrent de m'être utiles, parce que je m'aperçus que de tous les livres dont ils parlaient, ils n'avaient jamais lu une page, ce qui m'expliqua la netteté de leurs décisions et l'originalité de leurs aperçus. Ils n'avaient pas lu, ils avaient des idées générales, ils avaient des idées préconçues, ils jugeaient de haut et sans réplique, ils remplissaient la définition du grand critique. Mais remarquez, si à toutes leurs qualités ils avaient ajouté la faiblesse de lire les livres dont ils devaient parler, leurs décisions eussent été moins tranchantes et leurs considérations moins originales. Ils eussent été des critiques de moyen ordre, mais leur influence sur moi eût été la même, et même se serait prolongée plus longtemps. J'aurais relu, après leur conversation, avec un esprit nouveau. C'est le bienfait du critique. Le critique est cause que le lecteur fait des lectures méditées après avoir fait des lectures abandonnées. Le critique est cause que le lecteur fait des lectures dans un champ plus vaste de pensée. Le critique est cause que le lecteur, après avoir lu l'auteur tête à tête, le lit à trois ou à quatre. Il ne faudrait pas étendre indéfiniment ce cercle et, comme multiplier l'auditoire autour de l'auteur. Mais il faut, au bon moment, rompre le tête à tête, car il durerait. L'auteur que vous avez lu personnellement, si vous me permettez de parler ainsi, l'auteur que vous avez lu personnellement, ce qu'il fallait faire en effet, si vous le relisez sans consultation, vous retrouvez, en le relisant, toutes les mêmes impressions que vous avez eues à une première lecture. Elles ont laissé leurs traces, comme dit Malebranche. Vous creusez fatalement dans le même sillon. Il faut qu'à un moment donné, lequel, celui-là même où vous vous apercevez de la monotonie de vos sensations, vous vous avisiez de vous demander « qu'en pense un tel ?» Quand vous saurez ce qu'en pense un tel, vous serez préparé pour un nouveau voyage. Non pour le même, mais avec une autre façon de voir. Les médecins appellent un confrère en consultation, non parce qu'ils se défient d'eux-mêmes, non parce qu'ils croient que leur confrère est plus habile qu'eux. Ils ne le croient jamais, mais par crainte de persévérer dans un diagnostic faux, à cause de l'influence que garde sur nous une première impression ou une première idée. Ils changent d'air. Donc, ne jamais lire le critique d'un auteur avant l'auteur lui-même. Ne jamais relire un auteur qu'après avoir lu un ou plusieurs critiques de cet auteur. Voilà, je crois, la bonne méthode de lecture et de relecture.
D'autre part, lire l'historien littéraire avant l'auteur est à peu près indispensable. Mais il ne l'est plus de lire l'historien littéraire après avoir lu l'auteur. Ce n'est plus qu'un peu utile, quelquefois, selon les cas, pour vérifier telle concordance, le plus souvent pour se rappeler tel renseignement donné par l'historien que l'on sent qui nous fuit. Un petit inconvénient à cela, au temps actuel, c'est que jusqu'à présent, tous les historiens littéraires, sans exception, je crois, ont prétendu être en même temps critiques. Critiques dans leurs livres d'histoire eux-mêmes, et que par conséquent, si on les lit comme on le doit, avant de lire l'auteur, le mauvais effet que produit le critique lu avant l'auteur, ils le produisent. Il est vrai, l'inconvénient est assez grave. Il cessera. Les historiens littéraires s'accoutumeront à n'être que des historiens, comme les critiques à n'être que des critiques. Ou plutôt, l'historien littéraire s'accoutumera à n'être qu'historien littéraire dans un livre d'histoire, et à n'être que critique dans un livre de critique. Ils s'y accoutument déjà. Ils font en cela le mieux du monde. Une question reste, assez grave. S'il en est, comme j'ai dit, comment faut-il, dans l'enseignement, user des critiques ? Il faut, à mon avis, mettre entre les mains des écoliers les historiens littéraires, ceux des historiens littéraires qui ne font pas de critiques, puisque tous en font, ceux, jusqu'à nouvel ordre, qui en font le moins, et les leur faire lire avant les auteurs. Ou il faut faire aux écoliers un cours d'histoire littéraire comme on leur fait un cours d'histoire, et les prier de ne lire que les auteurs dont, dans ce cours d'histoire littéraire, il leur aura déjà été parlé. Les choses s'arrangeront, du reste, assez bien d'elles-mêmes, puisque le cours d'histoire littéraire invitera l'enfant à lire tel ou tel auteur dont le nom l'aura frappé dans le cours. Je parle de la majorité des enfants qui, même en France, est assez docile. Quelques-uns seront, au contraire, incités par le cours à lire les auteurs dont il n'aura pas été parlé, ou pas encore. Ma curiosité ayant été éveillée, en rhétorique, par le devoir français d'un de mes camarades que je ne connaissais pas autrement, parce qu'il était d'une autre pension que moi, j'allais à lui quelque temps après, et je lui demandais ce qu'il faisait. « Depuis quelque temps, me dit-il, je m'occupe beaucoup de philosophie. » Il s'occupa sans doute des littératures latines et françaises l'année suivante. Mais la majorité des écoliers lira naturellement les auteurs vers lesquels le cours d'histoire littéraire ou les historiens littéraires mis entre leurs mains auront dirigé leur attention. Mais les critiques, proprement dit, rien ne m'embarrasse comme cette question. Du temps où j'ai fait mes études, on ne mettait entre nos mains aucun critique. Je n'ai lu Sainte-Beuve qu'à 23 ans. On nous donnait des histoires littéraires qui, à la vérité, je l'ai assez dit, étaient mêlées de critiques, mais qui, après tout, étaient surtout des histoires littéraires. Le professeur, quand il nous donnait un devoir à faire, les complétait par quelques renseignements se rapportant au devoir en question. Il nous traçait, par exemple, deux petits portraits de Sadolet et d'Érasme quand il nous donnait à confectionner une lettre d'Érasme à Sadolet. Voilà tout. Nous n'avions pas, bien entendu, ni de Sadolet, ni d'Érasme, lu un mot. Que pouvait être notre devoir ? Quelques lieux communs de morale ou de littérature, historiés de quelques particularités anecdotiques, précieusement recueillies de la bouche de notre professeur. C'était très vide. Nos discours historiques l'étaient un peu moins, car encore, nous savions un peu plus d'histoire proprement dite que d'histoire littéraire. Nous n'avions pas lu Érasme, mais nous connaissions un peu Henri IV, Louis XIV, Turenne et Condé. On reconnut vers 1880 l'inanité de cette méthode et de ses résultats. On mit entre les mains des écoliers des critiques. On leur fit des cours de littérature très mêlés et même chargés de critiques. On leur fit faire des dissertations sur le stoïcisme dans Montaigne et l'atticisme dans Molière. Et alors, ce fut bien pis. Ce fut pis parce que les enfants, incapables d'avoir assez lu Montaigne et Molière, et de les avoir assez lus en critique pour avoir des idées personnelles, des idées bien à eux sur le tour d'esprit particulier de Molière et de Montaigne, ne mettaient dans leurs devoirs que des lambeaux, quelquefois un peu démarqués, de Sainte-Beuve, de Brunetière, de Lintilhac. L'affligeante stérilité de ces exercices ne le cédait en rien à l'affligeante puérilité des exercices de 1865, si tant est qu'elle ne fût pas au moins plus éclatante aux yeux. Que faire donc ? Énergiquement, doctoralement, Quelques-uns disent « Ne jamais demander à l'enfant que sa pensée personnelle, que l'impression qu'il a reçue et dont il a dû seulement se rendre compte, dont il a dû seulement prendre possession en lisant Les femmes savantes, Britannicus ou L'art de conférer. Cultiver la personnalité au lieu de l'étouffer sous celle d'autrui, au lieu de la forcer à abdiquer pour faire place à une personnalité d'emprunt. Voilà ce qu'il y a à faire et rien d'autre. » Certes, j'en suis d'avis et de toute mon âme. Seulement, c'est tellement restreindre le champ des exercices scolaires qu'il se réduirait à presque rien. Cela revient à ceci. Ne dites rien à l'élève sur le Cid, ne lui laissez rien lire sur le Cid, faites-lui lire le Cid, et puis demandez-lui ce qu'il en pense. Or, l'élève répondra que cela lui a beaucoup plu et que c'est très beau. Soyez sûr que, s'il répond autre chose, c'est qu'il aura triché, c'est qu'il aura lu quelque Sainte-Beuve ou quelque Lintilhac pour y trouver des idées, comme font, et sauf quelques traits, quelques observations de détail, que ce sera le devoir du professeur de guetter, d'aviser et de relever avec soin pour en féliciter l'écolier, un devoir scolaire sera toujours un reflet. Ce qui sera de l'enfant, ce sera une composition bien ordonnée, une disposition claire et peut-être déjà à droite des idées, et un style déjà plus ou moins formé, et ce sera toujours sur ces choses qu'il faudra juger un devoir d'enfant. La personnalité, l'originalité, n'y comptez point. Elles viendront, et chez très peu, chez infiniment peu, beaucoup plus tard. Qui est-ce qui a une personnalité? Ils sont rares qui en ont une. Presque personne n'est une personne. Et à 16 ans, personne n'est une personne. À quelques indices seulement, telle ou telle marque ou fait espérer qu'il en sera une. Même cette chasse à la personnalité, louable en soi, peut être un défaut chez le professeur. Il y a le professeur qui ne cherche qu'à rapprocher tous ses élèves d'un type convenu de bon sens, de rectitude d'esprit et de bon goût. C'est le professeur ordinaire. Il y a le professeur qui, par souci, certes très louable, de chercher la personnalité et de la faire naître, prend, avec une bonne volonté touchante, pour des marques de personnalité, hésitant encore et se cherchant, mais pouvant aboutir, de simples signes de bizarrerie ou de simples boutades d'espiègle. Tel ce professeur peut-être légendaire qui était enchanté de l'élève Croulebarbe, qui avait fait l'éloge de la Saint-Barthélemy. Il a tort, je le lui ai dit, il a tort, mais il est personnel. Hé, hé, il est personnel. C'est d'un professeur de ce genre qu'un de ses collègues disait « Voilà Fliegenfanger qui est encore à la recherche d'un esprit faux. » Non, il faut se contenter d'un fond de discours qui n'aura d'ordinaire aucune originalité, qui sera d'emprunt plus ou moins adroit et d'idées plus ou moins bien repensées, et d'une bonne disposition des parties et d'un style sain, parfois agréable. Voilà tout ce qu'on peut demander à un très bon élève de première. Dès lors, je suis à peu près contraint à abandonner, pour ce qui est de l'enseignement, mon grand principe qui est de ne pas lire les critiques avant les textes. J'admets que, concurremment aux textes, pour faire leur devoir, pour se préparer aux examens, pour donner à leur esprit une culture générale, très superficielle, mais enfin une culture générale, les élèves des lycées lisent les critiques. Mais, mon principe, je le reprends très vite pour leur dire, au moins pour ce qui est des grands auteurs dont vous avez le temps de lire les œuvres principales, lisez toujours l'auteur d'abord, et le critique seulement ensuite, seulement après vous être fait de l'auteur une idée, quelle qu'elle puisse être, qui soit à vous. De plus, cette habitude de lire presque concurremment, presque pêle-mêle, les textes et les critiques, surtout celle de lire les critiques et non les auteurs, perdez-la totalement, perdez-la énergiquement, dès que vous serez sorti du lycée. Elle est funeste en soi, elle fait des sots. Elle fait, en choses littéraires, des hommes tout pareils à ceux qui, en politique, récitent les articles de fond de leur journal. Elle fait des hommes reflets, elle fait des hommes qui sont des lunes. Il ne faut pas aspirer à être un soleil, mais il ne faut pas non plus être comme la lune. Il y a deux éducations, la première que l'on reçoit au lycée, la seconde que l'on se donne à soi-même. La première est indispensable, mais il n'y a que la seconde qui vaille. Dans la première, lisez les critiques à peu près en même temps que les auteurs, encore avec les précautions que j'ai indiquées.
dans la seconde, ne lisez jamais le critique d'un auteur que pour relire l'auteur lui-même. Autrement, vous n'entreriez jamais dans la seconde éducation. Vous resteriez toujours dans la première.
Fin de la section 9.
Valspar Ultra starts at just $29.98 a gallon. So we've got you covered when your daughter wants to paint her room again, after last year's masterpiece of a unicorn mural.
Dad, please!
Or when you realize that maybe you went too hard on the greige.
I miss color.
Or when you were sure you wanted a home gym, but your elliptical is currently hanging your laundry.
What about a home office?
Shop everything you need for your next phase with Valspar. Available at Lowe's. Price varies by sheen.